Merci d'avoir noté ce nouveau rendez-vous de Wagon Livre sur l'antenne de votre radio locale. Une émission qui va ce soir vous faire frémir puisque nous allons, à la manière d'un enquêteur, suivre les traces de meurtriers. Mais qui, mieux qu'un ancien inspecteur de police, peut nous guider dans cet univers trouble et glauque des crimes parfois les plus sordides? Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment aux éditions de Boré, et il est devant notre micro pour évoquer son dernier ouvrage intitulé « Les grandes affaires criminelles de Lyon » paru l'hiver dernier aux éditions de Boré. La quatrième couverture de son ouvrage nous rappelle qu'il a mené une grande partie de sa carrière dans l'Aube comme inspecteur de police et aujourd'hui à la retraite, il partage son temps entre écriture, mise en scène. Et il est également comédien au sein de la compagnie du Loup Bleu à Troyes. Alain Domanger, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous ai présenté avec les éléments qui étaient à ma disposition et fournis donc, comme je l'ai dit, par la quatrième de couverture. Alors, les affaires criminelles de Lyon, on voit le lien entre effectivement l'ancien inspecteur de police qui ne réussit pas à sortir du monde du crime, de la justice, c'est obsessionnel, le monde des enquêtes, c'est aussi toute une démarche intellectuelle, de logique.
Pas du tout. En fait, je voulais être journaliste. Voilà. Et j'ai fait des études de lettres. À l'époque, j'étais à Saint-Dizier. Mes parents habitaient à Saint-Dizier. Je voulais être journaliste. Et sauf que pour être journaliste à l'époque, il fallait quitter son cocon familial pour aller dans des écoles à Paris, à Strasbourg, à Lille. C'était bien loin et je n'étais pas très hardi, comme on disait à l'époque. Je n'avais pas très envie de quitter le cocon familial. Ce qui fait que j'ai préféré faire des études à la faculté voisine de Reims, hein, des études de lettres, lettres modernes. De plus, j'ai très vite été maître d'internat dans un lycée de Saint-Dizier. Ce qui fait qu'en fait, je passais 2 jours à Reims pour mes études et très vite, je revenais à Saint-Dizier dans ma famille. Voilà en fait comment les choses se sont passées. Sauf que en tant que maître d'internat, le mercredi après-midi, il y avait parfois, nos élèves sortaient et parfois, il y avait un élève qui se laissait tenter par un petit larcin au Monoprix, aux prises uniques du coin. Et c'était un inspecteur de la brigade des mineurs qui nous ramenait le délinquant, entre guillemets. Et je me suis, j'ai été amené à parler avec ces inspecteurs de la brigade des mineurs. Je me suis marié, j'ai eu un enfant, et là, il fallait travailler. J'avais fini mes études de lettres, et je me suis dit, bon, il faut travailler. Adieu le journalisme, pourquoi pas inspecteur à la brigade des mineurs. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la police. Sauf qu'on n'est pas tout de suite inspecteur à la brigade des mineurs, on est d'abord inspecteur tout court. Ce qui fait que j'ai travaillé dans tous les services, en brigade criminelle, au chèque, aux mœurs, etc. Avant, effectivement, d'intégrer la brigade des mineurs de Troyes, puisque c'était mon unique poste. Je suis rentré à Troyes en 75, j'ai commencé ma carrière en 75. Et les 20 dernières années de ma carrière, j'ai été en brigade des mineurs. Sauf que ma passion d'écrire ne m'avait pas lâché. J'écrivais tout le temps, j'écrivais beaucoup de nouvelles, des choses comme ça. Et en 87, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait intéresser un éditeur et un lecteur? Et je me suis dit, tiens, si je fais le récit d'affaires criminelles auboises du 19e, c'est-à-dire du siècle passé, peut-être ça pourrait intéresser des gens. J'ai effectivement trouvé un éditeur qui a marché tout de suite dans la combine. Et j'ai écrit un premier ouvrage qui s'est intitulé « Ces bois qu'on disait de justice ». Les bois de justice étant l'échafaud, voilà. Alors ça a été un tirage local, c'est moi qui faisais tout, qui emmenais mes bouquins dans les librairies, qui laissais les bouquins en dépôt-vente, qui ensuite faisait la facturation, etc. Puis bon, ça a bien marché évidemment, ça intéressait les gens. Sauf que 15 ans plus tard, un éditeur national, les éditions de Boré, ont eu la même idée que moi, sauf que ont décidé de faire un ouvrage par département sur les grandes affaires criminelles. Ils avaient besoin d'auteurs, ils m'ont retrouvé par les boîtes de justice et je me suis mis à travailler pour eux. Donc d'abord dans l'Aube, où j'ai écrit deux ouvrages sur les grandes affaires criminelles. Puis sur la Haute-Marne, parce que ma famille est originaire de Haute-Marne et je connais bien ce département. Et comme le département de l'Yonne n'avait pas encore été traité, les éditions de Boré m'ont demandé d'écrire les grandes affaires criminelles de l'Yonne. Voilà comment on en est arrivé là.
Alors merci pour le récapitulatif de ce parcours professionnel et intellectuel qui continue, puisque vous êtes également comédien.
Alors voilà, alors ça c'est une autre chose. Je suis tombé dans le théâtre tout à fait par hasard. Il y a maintenant 15-17 ans à peu près. Alors j'ai intégré vraiment par hasard une troupe de comédiens amateurs. Et puis c'est devenu ma passion. On a créé une compagnie il y a maintenant 10 ans, pile net 10 ans, en 2002, qui s'appelle la Compagnie du Loup Bleu, donc qui est à Troyes, et on rayonne dans le département et on va dire dans les départements voisins. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de partager mon temps entre l'écriture et mon travail de comédien, principalement un petit peu de mise en scène, mais surtout de comédien, ce qui est vraiment extraordinaire, quoi. J'ai l'impression d'avoir changé de métier et d'exercer maintenant d'autres métiers.
Merci en tout cas d'être devant notre micro pour parler de ces grandes affaires criminelles de Lyon ce soir sur Radion. Alors comment avez-vous procédé et comment avez-vous recensé ce que l'on appelle des grandes affaires criminelles? Parce que votre ouvrage en reconstitue un peu plus de 31 très exactement. Comment avez-vous opéré une sélection? Vous avez opéré la sélection par rapport à la hideur du crime, le côté sensationnel, les retombées, ou j'allais dire plutôt la notoriété de l'affaire au regard de la presse locale, voire nationale, en fonction de la personnalité des assassins.
Alors, parfois, effectivement, l'affaire, la célèbre affaire, la très célèbre affaire de Julie, hein, ça c'est clair.
Là, on peut dire que vous avez réouvert un dossier qui n'avait pas été depuis un siècle.
Absolument, puisque il y a des délais pour pouvoir ouvrir les dossiers criminels. Hein, et lorsqu'il y a des mineurs qui sont en cause, ce délai, aujourd'hui, il est de 100 ans. L'affaire de Julie date de 1910, et j'ai donc été le premier à réouvrir ce dossier 100 ans plus tard, puisque l'affaire en 1910, mais le jugement en 1911, et donc j'ai rouvert le dossier en 1911. Alors voilà, parfois c'est la notoriété du crime qui m'a amené à en parler, comme pour l'affaire de Julie, comme par exemple pour l'affaire des disparus de Lyon, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'était évident.
Hein. Il faut dire que votre livre va sur une période historique qui commence en 1840 jusqu'en 2004.
Voilà. 19e et 20e. Avant
oui, alors 19e. Pourquoi? Alors, il n'y a pas d'archives?
Déjà, il y a beaucoup moins d'archives. Hein. C'est déjà beaucoup plus difficile à trouver. Il y a très peu de presse. Hein. La presse n'existait pas beaucoup. Et puis, surtout, après, il y a des problèmes de déchiffrage de lecture, quoi. Hein. Je ne suis pas aguerri à lire l'écriture ancienne, et ça posait problème, quoi. Hein. Mais surtout, les dossiers sont plus existants, quoi. Alors, voilà, les critères, c'est ça, c'est la notoriété du crime, mais surtout, quand je me suis dit grandes affaires criminelles, je me suis dit, au départ, dans un premier temps, ce sont celles qui se sont terminées par une condamnation à mort. Donc j'ai d'abord recensé les affaires qui se sont terminées par des condamnations à mort, avec exécution ou pas, puisque très souvent il y avait quand même la grâce du président de la République, etc.
Peine commuée souvent en travaux forcés à perpétuité dans les bagnes de Guyane ou alors en Nouvelle-Calédonie.
Oui, principalement celui de Guyane, puisque la Nouvelle-Calédonie était réservée aux affaires politiques, aux criminels politiques.
Alain Domanger, dans votre ouvrage, dont je rappelle le titre, « Les grandes affaires criminelles de Lyon » aux éditions de Boré, vous mentionnez très souvent vos sources. Et parmi les journaux qui sont mentionnés dans votre ouvrage, nous trouvons le Journal de Lyon, la Constitution, le Bourguignon et l'indépendant Auxerrois. Alors peut-être les ai-je mis dans un ordre chronologique pas très respectueux de l'histoire. Vous avez eu accès donc, grâce aux archives départementales, à toute cette presse de l'époque.
Alors, là où j'ai trouvé effectivement la matière, c'est aux archives départementales à Auxerre. Qui sont pour nous raconteurs, puisque je me définis pas comme un écrivain, mais comme un raconteur d'histoire. Bon, ben ce sont des lieux fabuleux, quoi. Hein. Donc dans ces lieux, pour moi, je trouvais d'une part la presse, qui à l'époque était très bien informée. Hein, les journalistes, je suis sûr que certains journalistes rentraient avec le procureur, avec les avocats, pour aller réveiller le condamné à mort le matin de l'exécution. Ça, j'en suis persuadé. Vu la façon dont c'est raconté dans la presse, j'en suis persuadé.
C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des accointances très fortes entre de grands journalistes et le pouvoir judiciaire.
Absolument, oui. On laissait le journaliste assister à tout, presque tout.
Mais vous pensez qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas ?
Non, bien sûr. Lorsque j'ai écrit un bouquin sur la Haute-Marne, sur les grandes affaires criminelles de Haute-Marne, je me souviens, il y avait deux mises en cause qui étaient transférées, je crois, de Chaumont à Langres par le train. On a laissé un journaliste monter dans le wagon, où il y avait les deux criminels potentiels, on va dire, et qui ont questionné les criminels en disant « Alors, c'est vrai, c'est toi qui as fait le coup ?» On disait « Mais non, c'est pas moi, etc. » Vrai. Et l'article était dans la presse le lendemain, quoi. Donc les journalistes avaient accès à beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui.
Mais quel est le ton de la presse de l'époque à l'égard de crimes terribles, hein ? On massacre à coups de hache, à coups de marteau, on tue au fusil de chasse. Est-ce que la presse... jette l'opprobre sur les meurtriers, est-ce qu'elle est moralisatrice ?
Alors, elle est moralisatrice, elle jette l'opprobre sur les meurtriers, c'est clair, mais surtout ce que je lui reprocherais, c'est qu'elle ne cherche absolument pas...
Elle est à charge.
Elle est uniquement à charge, elle ne cherche absolument pas à comprendre le pourquoi du crime, quoi. Et justement, c'est ça que je n'arrête pas de dire. Un jour, un ami m'a dit « Tu ne refais pas les enquêtes ?» Tu essaies de comprendre. Et il m'a fait beaucoup plaisir, parce que effectivement, je ne refais pas les enquêtes. Les enquêtes ont été faites, et elles ont été bien faites. Hein. Il m'est arrivé une fois, et justement, j'en parlerai, parce que dans l'un des récits, il y a vraiment un des récits où on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire. Mais en règle générale, bon, la justice est passée, et bien passée. Sauf que mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les faits, pourquoi ce crime, quoi.
Nous allons, Alain Domanger, si vous le voulez bien, nous séparer quelques minutes, le temps d'une pause musicale. Je l'ai choisi de circonstance, puisque nous allons écouter Le tueur affamé par Francis Lemarque. Francis Lemarque disparu en 2002 à l'âge de 84 ans.
Sur le coup de midi et demi, Johnny abattit Tony, sans histoire. Il lui mit dans les boyaux 12 balles de son rigolo, et au revoir. La fin tiraillait Johnny, mais il n'avait pas fini son boulot. Car avant d'aller manger, il avait un compte à régler dans le quartier. Johnny s'en alla plus loin, il était 1h20. Dans un coin, il attendit Alfredo et lui enfonça dans le dos son couteau. Ce gars-là y avait fait du tort quand ils étaient dans le Grand Nord, chercheurs d'or. Il se dit, je peux aller bouffer, maintenant son compte est réglé, il est mort. Mince, déjà 1h15, j'allais oublier le rancard à la gare que m'a donné le gros Dédé pour aller exécuter une poupée qui nous a vendu salement au flic qui était son amant, en avant. Tant pis pour la boustifaille, allons buter de la flicaille, c'est le travail. À 3h, c'était fini, la poupée était oxy, ze. Et Johnny, ze, dit puisque je suis lancé, ben j'ai plus qu'à continuer, sans croquer. J'ai noté sur mon calepin, à 4h, chaussée d'Antin, chez Justin, il y a un coup fumant à faire faut zigouiller une rombière. Millionnaire. En rentrant dîner chez lui, il connut d'autres ennuis. Ce jour-là, sa souris qu'il aimait tant avait suivi le grand Fernand, son amant. De quoi ? De quoi, de quoi ? Fit Johnny en colère. Un type comme ça, un gangster, oh misère ! Je te vas payer à chacun une redingote en sapin avant-demain. Il la tua une heure plus tard, et ça lui donna le cafard. Mais trop tard, il pleurait, tu m'as fait souffrir. Dans mes bras, tu pourras plus revenir, te blottir. Mais sa montre marquait 10 heures, il se dit, je dois reprendre mon labeur de malheur. C'est pas ce soir que je vais bouffer, j'ai encore un type à tuer. Quel métier, quel sale métier.
Radion à Saint-Florentin, 95.
À bord de Wagon Livre, votre magazine littéraire chaque mercredi à 21h sur votre radio locale. À l'instant, Le Tueur affamé par Francis Lemarque, et nous replongeons dans les grandes affaires criminelles de Lyon avec notre invité, ancien inspecteur de police, Alain Demanger, qui est devant notre micro ce soir pour son livre Les grandes affaires criminelles de Lyon aux éditions de Boré. Revenons un petit peu aux sources avant d'évoquer un certain nombre de ces affaires, Alain Demanger. Revenons un petit peu sur ce qui est quand même l'appui essentiel de votre travail, les archives, et notamment les archives de la cour d'assises de Lyon, qui se trouve aux archives départementales.
Voilà, c'est ça. Hein. En France, toutes les administrations doivent verser leurs archives aux archives départementales. Et il en est ainsi de la justice, ce qui fait qu'aux archives départementales de Lyon se trouvent tous les dossiers d'assises du 19e siècle, du 20e siècle. Voilà. Au bout d'un certain temps, la justice est obligée de reverser. Et donc, c'est dans ces dossiers que j'ai puisé, que j'ai eu mes sources, quoi.
J'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur les documents iconographiques qui ponctuent l'ouvrage. Alors, essentiellement des cartes postales.
Que j'ai obtenues auprès de collectionneurs.
Alors, vous mentionnez beaucoup la collection de Guy Genette.
Voilà, entre autres. Ouais.
Il y a des cartes postales du tribunal d'Auxerre, de la prison d'Auxerre. Il y a aussi, c'est intéressant, les débuts peut-être aussi de la police scientifique, en tout cas des croquis, né sous le travail remarquable de docteurs réquisitionnés par la police criminelle pour des pièces.
Absolument. Mais cette fois, c'est dans les dossiers criminels, dans les dossiers judiciaires qu'on trouve effectivement alors des croquis où on a le crâne de la victime qui est dessiné avec les diverses fractures. Effectivement, c'est vraiment très impressionnant.
L'affaire la plus ancienne dans votre livre remonte à 1840, c'est l'affaire François Rouillard. On ne va pas trop s'y arrêter, si ce n'est que tout de même ce pauvre Rouillard, qui était à la tête d'une belle affaire, d'une auberge, et qui finalement, à cause d'un mauvais mariage, va être précipité dans la ruine et va être contraint de se défendre. Bon, il y aura malheureusement un mort. Il monte sur l'échafaud et Louis-Philippe refusera la grâce de Rouillard. En revanche, nous allons passer, je crois, un peu de temps sur un épisode départemental et national. Là, on peut dire que ça a été une grande affaire. C'est la Ferme Rouge à Juilly. Donc, on est dans le Tonnerrois. Enfin, on est un petit peu à l'est de Tonnerre, aux limites de l'Aube. Hein. C'est Tonnerre. C'est Ancile-France, c'est le petit village de Stigny, et ensuite il y a Juilly, où on relèvera, donc en 1910, 6 victimes, 5 cadavres et un rescapé. Et voilà. Le reste, je laisse Alain Demanger nous présenter cette affaire absolument épouvantable.
Épouvantable et exceptionnelle, quoi. Hein. Je me demande s'il y a d'autres affaires en France qui mettent en cause deux enfants de 14 et 16 ans dans un crime aussi affreux, quoi. Hein.
Parce qu'en fait, c'est ce qui aussi retient l'attention de tout le monde à l'époque, c'est la jeunesse des criminels. 16 ans et 14 ans.
Alors, c'est la jeunesse des criminels et également les raisons pour lesquelles ils ont commis ces crimes. Je sais que quand je travaillais aux archives à Auxerre, aux archives départementales à Auxerre, il y avait une chercheuse canadienne qui voulait venir, qui devait arriver en France et à Auxerre pour étudier ce dossier parce que il fait partie des dossiers qui, de manière internationale, sont, est exceptionnel, vraiment. C'est un dossier exceptionnel par rapport à la jeunesse des criminels.
Alors, les deux meurtriers, Joseph Jacquiard, 16 ans, Joseph Vienny, 14 ans, là encore, des enfants qui sont suisses d'origine, dont orphelins ou de père ou de mère, et qui sont exploités dans des fermes en France.
Alors, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas de travail en Suisse. Il n'y avait pas suffisamment de travail en Suisse. Donc, les Suisses envoyaient leurs enfants travailler dans des fermes françaises. C'est de cette manière que nos deux Joseph, Jacquiard et Vienny, sont venus travailler en France en tant que vachers et ont fini leur course à Julie.
Alors ce qui est incroyable, c'est que, vous l'avez dit, Alain Domanger, c'est le point de départ du massacre de tous les membres d'une ferme, la ferme de Julie, enfin, qui était aussi un ancien château. Le point de départ, c'est une fourche cassée.
Alors, c'est une fourche cassée, mais la fourche cassée, ça a été le déclencheur. Hein. En fait, très bizarrement, ces enfants avaient été des lecteurs. Quoi. Ils ont passé toute leur enfance à lire des revues, des romans d'aventure.
Romans de chasse et de guerre. Alors, vous les citez, je me permets de les citer, oui, parce qu'aujourd'hui, on n'en parle plus, on ne les connaît plus. C'est des Buffalo Bill, bon, des Nick Carter, des Jordan ou des Louis Noir, des romans de Louis Noir. J'allais voir sur Internet, il y a beaucoup de documentation, mais j'avoue ne pas avoir lu ces livres.
À part Buffalo Bill quand j'étais enfant.
Effectivement. Voilà. Donc, les lectures qui empoisonnent les esprits de la jeunesse.
Eh bien, oui, et puis surtout, tout d'un coup, il y a le plus âgé a décidé qu'ils allaient... que leur vie allait être une vie d'aventure, et ils ont décidé qu'ils allaient occuper leur vie à aller en Afrique, chasser les bêtes fauves, vendre de la pacotille, comme ils disaient, aux indigènes, et gagner leur vie en faisant le récit de leurs aventures. Et donc, le plus vieux a réussi à entraîner le plus jeune dans sa folie, quoi, presque, hein. Et alors, ils ne vivaient plus que pour ça. Ils passaient tout leur temps plongés dans le catalogue Manu France, à l'époque, pour faire la liste des armes, des poignards, des fusils, des vêtements de chasse, etc., qu'ils allaient devoir s'acheter pour partir en Afrique réaliser leurs rêves.
Il est vrai que la colonisation, l'Afrique, constituait des idéaux pour la jeunesse.
Mais oui, on était en plein dedans, évidemment. Et puis, voilà, ils se sont retrouvés donc chez le couple Verrières, à Julie. Et un beau jour, le plus vieux a cassé une fourche. Et ils se sont persuadés que leur patron allait leur retenir le prix de la fourche sur leur salaire. Et ils ont dit, allez, on agit tout de suite, on les vole. On va voler de l'argent chez eux, quitte à tuer, et même quitte à les tuer tous.
Alors, 5 personnes sont tuées donc au revolver. Il y a une tête fracassée à coups de hache. Il y a une jeune domestique qui aura l'artère carotide tranchée et dont le corps est jeté dans la citerne de la ferme. Oui. Et ce qui m'a surpris en lisant cette affaire de la ferme rouge de Julie, ça m'a rappelé un peu une affaire beaucoup plus tardive, hein, c'est 30 ans plus tard, l'affaire des sœurs Papin, dont Jean Genet a fait une pièce de théâtre, où il y a une tension sociale entre de jeunes gens exploités et des patrons. Il y a une tension sociale tout de même.
Une de vos collègues journalistes m'a dit la même chose il y a quelques jours. Et non. Je dirais non. Je ne fais pas de rapprochement entre les fameuses bonnes de Genet et les deux jeunes vachers suisses de Julie. Les bonnes de Genet étaient effectivement dans ce. Il y avait une révolte sociale. on va dire. Hein, mais chez les deux enfants de Julie, c'était uniquement pour se procurer de l'argent et pour partir en Afrique.
Quoi. C'est vrai que chez Genet, il y a du dépit, ce qui n'est pas le cas de ces jeunes bachelors. C'est plus la peur d'avoir une retenue voilà. sur ses gages voilà. en raison de cette fourche cassée. Oui, finalement, oui. ça ne tenait vraiment à pas grand-chose.
Quoi. Pas grand-chose. Mais même s'il n'y avait pas eu la fourche cassée, je pense qu'il s'était mis en tête de dévaliser les fermiers.
Alors, un domestique, on l'a dit, 5 cadavres, mais un rescapé, très jeune aussi, il s'appelle Louis Humbert, il a 16 ans, il est rescapé. Il y a aussi beaucoup d'émotions dans la manière parfois dont vous racontez ces histoires, surtout à la fin. On a l'impression tout de même que parfois l'ancien policier montre qu'il peut s'épancher un peu et que son cœur vient nous dire « Ah mon Dieu, comme les... » Comme la tragédie peut briser une existence humaine.
Alors, comme la oui.
Il y a des larmes et des sanglots, mais on est ému parfois. Vous réussissez à nous saisir.
Oui. Sauf que ce que je voudrais, alors je ne sais pas si j'y suis arrivé, c'est à vous émouvoir à la fois par la destinée de ces victimes, hein, mais également par la destinée de ces criminels. Hein. Évidemment. Il faut penser aux quatre orphelins, les quatre enfants des époux Verrières, hein, qui sont restés orphelins. C'est évident. Et il faut penser à eux en premier lieu. Hein. D'un autre côté, il faut aussi imaginer ce qu'a été la vie de ces deux gamins suisses, hein, plus ou moins orphelins tous les deux. Et puis, comme l'a dit leur avocat, ils n'ont rien hérité de financièrement de leurs parents, mais ils ont quand même hérité de parents parfois alcooliques. Il y avait vraiment un atavisme dont ils ont été les héritiers, c'est clair.
Ce qui est aussi surprenant pour nous lecteurs en ce début de 21e siècle, c'est de constater, par exemple, que dans les années 1900-1910, et c'est le cas de l'affaire de Julie, des battues sont organisées. Donc il y a la police mobile de Dijon, les gendarmes, la maréchaussée et le bon peuple qui tout de même sont sur la trace des fuyards. C'est le cas des deux Vachers, parce que le procureur le dit bien, une contrée, il parle de Julie, des environs de Julie et Tonnerre, une contrée bouleversée, presque en état de siège, des roulements de tambour, des battues organisées, les trains fouillés, les frontières gardées, car on craignait que les deux meurtriers d'origine suisse ne tentent de retourner dans leur pays d'origine. Il y a une sorte de chasse à l'homme. Et ce n'est pas que dans l'affaire de Julie. Ça, aujourd'hui, la population ne... Au contraire, justement, on ne veut pas, me semble-t-il, comme aux États-Unis, on voit les drames aussi de la population qui voudrait faire justice elle-même. Et la dangerosité de la
ah bah
foule,
oui, bien sûr.
Sous couvert de l'émotion. Ouais. Et Dieu sait, on en a beaucoup parlé avec des crimes terroristes encore il y a quelques mois en France.
C'est vrai qu'à cette époque, la population se mettait aux ordres des gendarmes et organisait des battues armées de fusils, de bâtons, etc. Et comme vous le dites, hein, c'est pas seulement dans ce récit, hein, dans cette affaire. Hein. C'est très souvent que les choses se passaient de cette manière.
Alain Dobanger, concernant nos deux jeunes Vachers dans l'affaire de Julie, expliquez-moi comment ils parviennent à se procurer... À Ravière, auprès d'un quincaillier, ils réussissent à se procurer deux pistolets, alors que le même jour, ils veulent acheter leur billet de train pour fuir sur Dijon, on leur refuse le billet de train. Le quincaillier leur vendra deux revolvers, mais on leur refusera deux billets de train. C'est surprenant, ça aussi vous le mentionnez, c'est aussi pour nous faire réagir.
Ah mais tout à fait, mais c'était une époque où effectivement on vendait des armes à des gamins de 16 ans. Il n'y avait aucun problème. Hein. On retrouve la même chose avec l'affaire Picard.
Hein. Jeune meurtrier de 16 ans.
Meurtrier
à 16 ans, condamné
à
17 ans.
À 17 ans, voilà. Hein. Et où lui aussi se baladait, depuis l'âge de 14 ans, il se baladait constamment avec une arme à la ceinture. Ses patrons le savaient, il s'amusait à mettre en joue ses collègues de travail, etc. Bon, et la législation concernant les armes était effectivement, c'était très laxiste.
Hein. Alain Dobanger, vous êtes passionnant. On va néanmoins marquer une nouvelle pause dans notre entretien. Réécoutons avec bonheur la voix d'une grande dame de la chanson française qui nous a quittés en 2011. Cora Vauquer, voici la balade des truands.
Braves gens, vous qui avez bon cœur, ayez pitié des pauvres voleurs. Vous qui avez bon cœur, braves gens, ayez pitié des pauvres truands.
Pourquoi qu'on serait pickpocket?
Monte en l'air, filou ou vaut rien.
Peut-être parce qu'on est trop bête
pour faire un polytechnicien.
Les gens honnêtes, ils ont de la chance. Qu'est-ce qu'ils peuvent piger à tout ça? Ils ont de la braise et de la finance. Ils connaissent pas tous nos tracas. Braves gens, vous qui avez bon cœur, ayez pitié des pauvres voleurs. Vous qui avez bon cœur, braves gens, ayez pitié des pauvres truands.
Faut penser au côté pratique.
Sans valeur, y aurait plus de prison.
Adieu les vaches, adieu bourrique.
Faudra bien vous faire une raison.
Des flics, nous sommes la providence.
Des magistrats, le gagne-pain.
Tout ça, c'est-il pas l'évidence? Mais je t'en fous, ils comprennent rien. Braves gens, vous qui avez bon cœur, ayez pitié des pauvres voleurs. Vous qui avez bon cœur, braves gens, ayez pitié des pauvres truands.
Radion 03 86 46 50 50. Radion.
Des frissons, de l'effroi devant les affaires criminelles que nous avons choisi de mettre en lumière ce soir dans Wagon Livre. Je rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre que nous avons le plaisir d'accueillir devant notre micro Alain Domanget, auteur des Grandes Affaires Criminelles de Lyon, ouvrage disponible auprès de vos libraires aux éditions de Boré. Nous nous sommes quittés juste avant Cora Vauquer en parlant de la ferme de Julie. Je voudrais juste revenir, vous avez parlé de l'affaire Picard, mais vous avez parlé aussi d'un contexte de l'époque qui condamne et montre du doigt les mauvaises lectures de la jeunesse qui empoisonnent ou qui empoisonneraient leur esprit. Le maire de Villiers dans l'affaire Picard, là on est en 1913, hein, donc vraiment contemporain des événements terribles de la ferme de Julie. Le maire déclare sur la tombe du pauvre homme qui a été assassiné et que l'on enterre, je le cite, « Ne faudrait-il pas chercher la cause primordiale du crime dans les récits atroces qui s'étalent avec complaisance dans les journaux et certaines brochures d'un genre spécial lu avec avidité par une jeunesse inconsciente et dont les personnages sont présentés en héros aux jeunes cerveaux mal équilibrés. Mais aujourd'hui, dites donc, si les jeunes ne sont plus devant des livres empoisonnants, il y a des écrans empoisonnés. »
Oui, puis, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend bien hein, tout ce qu'on nous dit sur les écrans empoisonnés, comme vous les appelez. À l'époque, aujourd'hui, en revanche, cela nous fait un petit peu sourire, le fait que on considère que la lecture de Buffalo Bill puisse inciter des enfants. Hein. Mais bon, peut-être qu'à l'époque, effectivement, ça fonctionnait comme ça dans la tête des enfants. Hein.
Alors, concernant l'affaire de Julie, bon, il n'y aura aucune circonstance atténuante retenue. Jacquard, donc l'aîné, hein, il a donc 17 ans, il sera condamné à mort, puis gracié, hein, il finira sa vie au bagne de Guyane. Quant à Vienny, lui, étant donné qu'il est beaucoup plus jeune, il est condamné à 20 ans dans une colonie pénitentiaire. Mon Dieu, que de vie brisée, effectivement, alors, par des jugements oui, d'une sévérité terrible.
Voilà, et c'est exactement... Alors d'une part, j'aimerais, alors s'il y a un auditeur qui peut m'aider, j'aimerais savoir comment s'est terminée la vie de Vienny. Quoi, hein. À chaque fois que j'ai affaire à un condamné aux travaux forcés. J'interroge les archives outre-mer qui se trouvent à Aix-en-Provence pour savoir ce qu'est devenu mon bagnard. Est-ce qu'il est mort pendant le transport ou est-ce qu'au bout de combien de temps il est mort au bagne, parce que bien entendu les gens ne tenaient pas le coup longtemps au bagne. Mais pour Vienny, donc 20 ans de colonie pénitentiaire, j'aimerais savoir ce qu'il est devenu après, parce qu'il avait 14 ans, bon, ça fait 14 et 20, ça fait 34 ans. À 35 ans, on peut imaginer qu'il a vécu encore, hein, qu'il a eu des enfants, pourquoi pas, et qu'aujourd'hui, il y a quelque part en France les descendants de Joseph Vienny. Et j'aime bien terminer mes histoires. Et mon grand plaisir, ce serait aller les rencontrer.
Voilà un beau sujet de roman, Alain Domanger.
Bien sûr.
Parlons un peu des exécutions publiques. Alors, vous l'expliquez, les exécutions, comme je l'ai dit, la peine capitale est publique. La foule, les femmes sont là. Je ne sais pas si les enfants venaient assister à ce redoutable spectacle, mais il y a une sorte de catharsis. La population semble heureuse de voir la justice rendue et la vie ôtée à un condamné.
Alors, je me suis beaucoup posé de questions, hein, par rapport à effectivement ce voyeurisme. Hein, alors,
parce qu'il y a tout un rituel, pardonnez-moi, le bourreau arrive dans la ville. Alors, ce que l'on apprend en vous lisant, c'est qu'à Auxerre, il n'y avait pas de guillotine en permanence.
Non, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait, une guillotine à Paris, il y en avait plusieurs même. Il y en avait à Lyon, il y en avait dans les très grandes villes. Et quand il y avait une exécution à Auxerre, les boîtes de justice arrivaient démontées par le train. La veille ou deux jours avant, ils étaient montés, installés. Alors en général, on l'installait le plus près possible de la prison pour qu'il n'y ait pas de trajet, on va dire. Et les boîtes de justice, l'échafaud était construit, bâti pendant la nuit, et on allait réveiller le condamné à mort à 5h du matin, et l'exécution avait lieu très tôt. Quoi.
Toutes les iconaises et iconais, mais les Auxerrois en particulier, seront curieux d'apprendre que place Saint-Amâtre, on a vraisemblablement coupé des têtes.
Absolument, bien sûr. C'était un des hauts lieux d'exécution à Auxerre.
Ouais. Alors, rituel, presque théâtralisation, mise en scène de la condamnation avec tout un personnel habilité, le préfet, le député maire d'Auxerre venait, le procureur, l'avocat du condamné à mort, toute une cohorte de généraux, de colonels, d'avoués, de médecins, de journalistes, c'était vraiment le spectacle.
Alors c'était le spectacle. Alors comme je vous le dis, je me suis posé des questions. Alors on peut apporter plusieurs réponses. D'abord peut-être à quoi ça ressemble un criminel. Je crois que le public voulait savoir à quelle tête avait...
Quelle tête a le monstre.
Voilà, quelle tête a le monstre. Hein. Alors bien sûr, très souvent, ils étaient affreusement déçus parce que le monstre n'avait absolument pas une tête de monstre.
Oui, hein. Des monstres avec des corps d'adolescents et de fricheurs.
Absolument. Hein. Dans les meurtriers de Julie, la presse a dit que le plus jeune, on le verrait jouer à la toupie ou aux billes. Hein. C'était clair. Alors après, il y a aussi le fait de se dire... C'est pas moi qui y suis. C'est pas moi qui monte sur l'échafaud. Vous voyez, ce contentement de la population en se disant c'est pas moi qui suis là, quoi.
Contentement de la population qui donne lieu à des débordements au point que c'est en 1912 avec l'affaire Paul Aubert que les exécutions publiques ne le seront plus.
Voilà.
À partir de 1912, voilà. On exécute, mais dans l'enceinte de la prison d'Auxerre.
Voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé ce récit « La dernière séance ».
Parlons peut-être...
Je vais encore parler des exécutions. Juste dire, rappeler un petit peu comment les choses se passaient. Il ne faut pas croire que les condamnés à mort montaient sur l'échafaud de gaieté de cœur. Hein. C'était affreux. Hein, conduire, hein, j'ai eu à parler avec un avocat troyen qui a, de par son métier, été obligé d'assister à une exécution capitale. Il m'a dit que c'était le pire souvenir de sa vie. Il m'a dit c'était une bête qui se battait pour ne pas y aller, quoi. Hein, et ce qui fait qu'on comprend bien pourquoi les condamnés à mort, le matin de l'exécution, on leur faisait boire un verre, deux verres, trois verres de rhum à jeun, Alors effectivement, quand un condamné à mort avait bu presque un demi-litre de rhum à jeun plus une cigarette, évidemment, les choses se passaient relativement bien. Mais c'était comme ça, les exécutions. Faut pas croire que les condamnés à mort montaient de gaieté de cœur sur l'échafaud.
Eh bien, écoutez, Alain Domanger, un peu d'humour maintenant avec un parolier musicien-chanteur que l'on entend d'ailleurs assez peu à la radio. Il nous a quittés il y a 40 ans, à l'âge de 50 ans, et le thème de notre émission permet de, c'est terrible de le diffuser ce soir, cet ancien scaphandrier dont le principal loisir était de faire des mathématiques est un vrai poète, aux trouvailles souvent en forme de calembour et de jeu de mots, vous l'aurez peut-être deviné, nous allons écouter Bobby Lapointe et il nous interprète Sentimental Bourreau.
Il était une fois un tout petit bourreau, pas plus grand que trois noix, et pas beaucoup plus gros. Des hautes et basses œuvres étaient exécuteurs, et pour les basses œuvres étaient à la hauteur. N'avait jamais de trêve et jamais de repos, car en place de grève, il faisait son boulot. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça saigne mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre, d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal, sentimental bourreau. Aïe, 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 aïe. Un soir de sa fenêtre, la femme du fossoyeur, et là l'homme de tête, et lui ouvrit son cœur. Depuis longtemps sevré de transports amoureux, à vous de me livrer au bourreau vigoureux. Je vous lance une corde du haut de mon balcon. Grimpez-y, c'est tenant. Allons, exécution. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête. C'est un truc idiot, ça salue mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal, sentimental bourreau. Aïe, 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 aïe. À partager sa couche, la belle l'invita. En quelques coups de hache, il la lui débita. L'époux au bruit du gris survint un peu inquiet. Il partagea le mari pour garder sa moitié. Comme la dame inquiète suggérait, taillons-nous. Il lui coupa la tête et se trancha le cou. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête. C'est un truc idiot, ça seul mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal, sentimental bourreau. Aïe, 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 aïe. Envoie. Prince, prenez grand soin de la douce Isabeau. Qu'elle n'ait-on que besoin d'un petit bout robot.
Radion, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Il est l'auteur des Grandes Affaires Criminelles de Lyon aux éditions de Boré et il est devant notre micro pour nous passionner avec un ouvrage au carrefour de l'histoire, de la sociologie et du fait divers. La face cachée de Lyon, en suivant avec notre invité un itinéraire du crime. Alain Domanger est donc ce soir avec nous. Juste avant Bobby Lapointe, on a parlé de l'affaire Paul Aubert. C'est une affaire qui se situe à Vermenton, en 1911-1912. Et là aussi, on a parlé, parce que votre livre montre bien les ravages de l'alcoolisme dans un département viticole et vinicole. Et là, ce jeune homme qui est exécuté à Auxerre à l'âge de 24 ans, on peut dire que le crime qu'il commet sur une jeune fille sourde, c'est un crime lié à un coup d'eau de vie de cerise de trop.
C'est vraiment ça, parce que Paul Aubert, tout le monde s'est accordé à dire que c'était un jeune homme exemplaire. Au village, tout le monde s'accordait à dire qu'il était travailleur, honnête, qu'il ne buvait jamais rien.
Voilà. Remarquable durant son service
absolument,
militaire.
Hein. Sauf que ce jour-là, il y a eu de l'orage, et comme il n'a pas pu aller travailler dans les vignes, on en a profité, chez ses parents et chez ses patrons, pour mettre l'eau de vie nouvelle en bouteille, l'eau de vie de cerise. Et Paul Aubert a goûté l'eau de vie chez ses parents, il l'a goûté à nouveau chez ses patrons. Et puis, sur les coups de 5h, 6h de l'après-midi, le soleil est revenu, il est parti travailler. Et là, effectivement, il rencontre deux amis à lui qui lui disent « Sur le mont Malois, là-haut, il y a une jeune fille, elle nous a paru drôlement bizarre, on lui a parlé, elle ne nous a pas répondu, etc. » Et lui, fanfaronnant de par son ivresse passagère, mais voilà, a dit « Mais moi, je vais aller lui parler. » Et effectivement, il voit cette jeune femme, il lui adresse la parole, elle ne lui répond pas d'abord parce qu'effectivement, il ne sait pas qu'elle est totalement sourde. Elle est venue avec sa famille passer le mois d'été à Vermenton. Et ben avec Vermenton, c'est fabuleux pour elle qui habite d'habitude Vincennes et qui ne peut pas sortir. Là, elle peut effectivement se promener, quoi.
Elle est sur le mont Malois.
Elle est sur le mont Malois, en train de cueillir des fleurs, voilà. Et Paul Aubert, alors il prend le mutisme de cette jeune femme pour un acquiescement, dit-il, hein. Et puis voilà, à un moment donné, l'effet de l'alcool, il lui saute dessus, tente de la violer, et lui fend le crâne à coups de pioche, quoi. C'est affreux. C'est une histoire affreuse. Et alors, sur le coup, les habitants du département ont crié à mort, évidemment. Sauf que quand on a découvert qui était ce Paul Aubert, là, il y a vraiment eu un revirement dans la population. Il a été exécuté, sauf que le lendemain de l'exécution, il y avait des articles dans la presse en se disant, mais c'était vraiment aussi un pauvre gars, quoi. Hein? Et tout le monde a applaudi quand l'avocat de Paul Aubert a réussi à faire ramener son corps au cimetière de Vermenton en se disant, au moins, ses parents pourront aller s'agenouiller sur sa dépouille.
Donc on peut penser que à l'heure actuelle, on peut trouver la tombe de ce jeune condamné à mort, alors à Vermenton, à moins qu'elle ait été relevée.
Oui, je pense qu'il y a quand même des chances qu'elle ait été relevée, oui. Ouais.
Vous n'avez pas trop parlé des affaires de viol. On va pas beaucoup parler de l'affaire Émile Louis ce soir. Je vous avouerai, j'ai plus été impressionné par les affaires plus anciennes. Je pense notamment à l'affaire de Lingette, qui est une affaire de viol et d'assassinat de petite fille, une petite fille de 7 ans à Vincelles, sur les bords du canal du Nivernais.
Oui, alors je veux quand même dire une chose sur l'affaire des disparus de Lyon. Simplement, il y a deux choses que je veux dire. C'est que quand on parle des disparus de Lyon, tout le monde a en mémoire les photos des jeunes adolescentes. Et tout d'un coup, quand j'ai ouvert ce dossier, je me suis aperçu que ces jeunes adolescentes seraient toutes aujourd'hui des grand-mères. Et ça m'a sidéré. Je me suis dit, mais voilà, c'est une vie, quoi. Hein. On ne les connaît qu'à travers ces photos de jeunesse. Et tout d'un coup, je me dis, mais aujourd'hui, ce seraient des grands-mères. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler. Pour moi, l'affaire des disparus de Lyon, c'est comme la Shoah. Il ne faut pas oublier. Alors, il faut constamment parler de ces enfants handicapés mentaux et de leur misère et de leur fragilité, quoi. Voilà. Je voulais rien dire de plus sur l'affaire des disparus de Lyon, mais il faut s'en souvenir.
On a parlé donc d'un crime que la presse de l'époque, on est en 1884 à Vincelles, qualifie de crime que la plume se refuse à décrire. Beaucoup de précautions rhétoriques.
Oui. Alors c'est une petite fille, hein, Berthe de Bèze, 6 ans, qui effectivement a disparu, c'était la fille de la boulangère. Elle a disparu un midi, elle était partie acheter du tabac pour son beau-père. Voilà. Et puis elle ne revient pas. Et en fait, on retrouve le corps...
dans le canal du Nivernais.
Ouais, 5-6 jours après, je crois, ou une dizaine de jours après, dans le canal du Nivernais.
Trois semaines plus tard.
Voilà. Et on s'aperçoit effectivement qu'elle a été violée, quoi. Hein. Quand tout à l'heure je parlais d'erreur judiciaire, je dois dire que c'est le dossier sur lequel je me pose des questions, quoi.
Donc le tonnelier de 26 ans qui sera accusé, qui s'appelle donc Henri de Lingette, va passer d'abord en correctionnel.
C'est ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'enquête piétine, on ne trouve rien. Et puis, le jour de l'enterrement de la petite Berthe, là, quelqu'un qui, le premier, a émis l'hypothèse que Henri de Lingette, tonnelier donc de Vincelles, pouvait être le meurtrier. Et à partir de là... les langues se sont déliées, des victimes sont venues dire « Ah ben moi, quand j'étais dans les vignes, il a essayé de m'embrasser, et puis une autre femme a dit « Ah ben il a couché avec moi, et il voulait, j'attendais un enfant, il a voulu me le faire passer, etc. » Vraiment, un tas de petites choses qui ont conduit cet homme en correctionnel. Mais il y a eu un non-lieu pour la, il a fait l'objet d'un non-lieu pour l'affaire Berthe de Bèze. Et en correctionnel, dossier mal ficelé, il est acquitté. Là, et moi, dans la population de Vincennes, on réclame la réouverture d'une information. Et on trouve cette fois des témoins qui viennent dire « Ah si, on a vu de lingettes partir avec la petite Berthe. » Alors pourquoi seulement un mois après, alors que depuis un mois, les gendarmes faisaient l'enquête. Mais on a réussi à faire réouvrir l'information. De lingette est passé aux assises.
Où là, il est déclaré coupable du viol, mais il est non coupable de la mort de la petite Berthe, et on lui reconnaît des circonstances atténuantes.
Voilà, un jugement totalement illogique. S'il est coupable du viol, il est coupable du meurtre, évidemment. Hein. Et donc, la population se révolte à nouveau, parce qu'il n'est condamné qu'à 10 ans de réclusion. La population en émoi. La justice sent qu'il faut faire quelque chose. La Cour de cassation casse le jugement pour un vice de forme, et on recondamne de lingette, et cette fois, ouf, il est condamné aux travaux forcés.
20 ans de travaux forcés, voilà. Qu'il purgera en Nouvelle-Calédonie. On laisse momentanément de côté les ténébreuses affaires criminelles de Lyon, même si le titre que nous allons redécouvrir demeure en lien avec notre propos. Voici sur votre radio locale un texte de Pierre Segers, mis en musique par Léo Ferré, une chanson qui raconte le bagne à l'île de Ré. C'était en 1961 et voici Merde à Vauban.
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne mère, dans 20 ans pour elle, je ne serai plus personne. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien, ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant, moi je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, ici les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Jamais ne vienne celle que j'aimais tant pour elle. J'ai manqué la belle. Merde à Vauban. Bagnard, la belle, elle est là-haut dans le ciel gris. Elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Je suis au mitard avec elle tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, le temps qui t'en s'allonge dans l'île de Ré avec ses poux, le temps te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux, où est sa bouche avec le vent? On dirait parfois que je les touche. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, mais je chanterai d'en dessous mes planches. Merde à Vauban.
Pour contacter Radion, 03 86 46 50 50.
Radion. Merde à Vauban, c'était Léo Ferré. On retrouve pour conclure notre invité Alain Domanget, l'auteur des grandes affaires criminelles de Lyon aux éditions de Boré, et il va falloir que nous concluions, Alain Domanget. Alors, effectivement, on voit aussi que la police de l'époque, notamment les années 1880 et les années 1910, d'un point de vue attirail scientifique ou technique, on voit bien quand même que la police ne dispose pas de la puissance scientifique qui peut être la sienne aujourd'hui, enfin qu'elle peut avoir à ses côtés aujourd'hui.
Alors oui.
Parce qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, un cheveu c'est un océan.
Absolument, absolument. Aujourd'hui donc, il y a eu des avancées scientifiques qui font que l'ADN par exemple, on n'en est plus aux enquêtes des années, des débuts du siècle, du début du XXe siècle. Mais à côté de ça, je me suis toujours dit en relisant les dossiers criminels, que finalement les choses n'avaient guère changé et que une enquête criminelle, c'était, on la faisait dans les années 1850, on la faisait de la même façon qu'on la fait encore aujourd'hui. Dans un premier temps, on va sur place, on fait les constatations, on cherche l'arme du crime. On commence, première chose, par virer tous les témoins gênants, tous ces gens, tous les curieux qui ont envahi la scène de crime. Hein. Et puis après, on cherche l'arme, on recherche effectivement les témoins, les motifs, etc. Ça n'a pas beaucoup changé.
Si on veut prolonger, en tout cas, la narration et la vivacité et aussi le rythme dramatique qu'Alain Domanget a donné à cette émission, eh bien on le retrouve, ce rythme dramatique, doublé de preuves à l'appui, d'un texte extrêmement vivant et passionnant, avec des illustrations, dans son ouvrage « Les grandes affaires criminelles de Lyon », donc d'Alain Domanget, et c'est aux éditions de Boré. Et merci, monsieur l'ancien inspecteur de police, d'avoir été devant notre micro. Je rappelle que vous êtes écrivain et comédien, finalement un homme qui a plusieurs cordes à son arc. Merci d'avoir été notre invité.
Alors, juste, je veux rajouter une chose.
Très rapidement.
Très rapidement, c'est que je suis l'un de vos collègues, confrères, puisque j'ai participé à la première radio associative troyenne qui s'appelait Radio des Poumons, qui est née en 1981, au moment où les radios ont été ouvertes.
Alors, vive la liberté de parole, d'expression.
Absolument.
Et vive la culture sur la bande FM. Merci Alain Domanget.
Merci.
Avant de vous laisser en compagnie du programme musical de Radion, quelques rendez-vous culturels dans les semaines à venir. Alors tout d'abord, très important, samedi 9 juin prochain de 10h à 19h, le premier festival littéraire de Saint-Florentin à l'occasion des 100 ans de la Fondation Gallimard, avec à Saint-Flo l'inauguration d'une rue Gallimard, et puis Salon du Livre, au cours duquel vous pourrez rencontrer des écrivains, des éditeurs. Il y aura des divertissements pour les enfants, des représentations avec lecture, la remise des prix des après-midi de Saint-Flo, un vide de bibliothèque, et puis le soir un concert jazz band. C'est samedi 9 juin de 10h à 19h à Saint-Florentin, à l'occasion du premier festival littéraire de Saint-Florentin. Le 2 juin prochain, Carole Borda et Liliane Privé exposent leur photographie « Regard poétique sur ma ville d'Auxerre ». C'est à la librairie du centre commercial de Saint-Georges-sur-Bauge. Liliane Privé, photographe, et Carole Borda, écrivain, avaient reçu le Grand Prix Festilivre à Moneto en 2010. Et elles exposent leurs photos donc à Saint-Georges-sur-Bauge, à la librairie du centre commercial. Le deuxième festival de poésie et chansons des Ruraleuses se tiendra les 1er et 2 juin prochains au château de Julis, c'est dans le Tonnerrois, pardon. Alors vendredi 1er juin, projection d'un film documentaire qui sera consacré à Bernard Guénier, un paysan anarchiste à la retraite qui cultive l'esprit et les mots de Gaston Couté. Cette projection sera suivie d'un spectacle sur les textes de Gaston Couté, spectacle proposé par les membres de l'association René Daudan Chante, avec un invité, suivi d'une discussion conviviale autour d'un verre. Et puis le samedi 2 juin, toujours au château de Julis, dans le cadre du festival Les Ruraleuses, à 18h, un récital de Jean Vasca, qui interprétera ses propres textes, mais aussi des textes des répertoires de Ferrat, de Brassens ou de Ferré. Ça, c'est à 18h, le prix de l'entrée est de 10 euros. Et puis à 21h, un autre récital, cette fois-ci de Gérard Pierron. Gérard Pierron qui sera accompagné de ses musiciens qui donnera son spectacle Sillon Sillage, une anthologie des thèmes et auteurs qui lui sont chers et parmi lesquels on peut citer Gérard de Nerval, René Guicadou, Aimé Joulin, Eugène Bizot, Alain Leprest, Gilbert Lafaille, prix des places 12 euros. Pour plus d'informations, vous téléphonez au 03 86 75 14 66. Je répète, 03 86 75 14 66. En ces temps troublés au Vatican, je ne saurais vous recommander la lecture du dernier ouvrage de Bernard Lecomte, Les derniers secrets du Vatican. C'est aux éditions Perrin. Bernard Lecomte, qui habite en Puisaye, qui est ancien grand reporter au magazine, au journal La Croix et à l'Express, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine. Il est actuellement l'un des meilleurs spécialistes du Vatican et ses livres sur la papauté font autorité, notamment le dernier, Les derniers secrets du Vatican, aux éditions Perrin. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 6 juin à 21h, avec une ancienne institutrice militante et responsable politique au Parti Socialiste. Il s'agit de Marie-Thérèse Mutin. Nous évoquerons sa vie, son enfance, son parcours, surtout de militante socialiste, puisqu'elle a été maire de son village en Côte d'Or pendant 21 ans. Elle a été conseillère régionale et députée européenne. Elle est l'auteur d'une autobiographie parue aux éditions Mutine, Entre chien et loup. C'est donc mercredi prochain à partir de 21h. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à l'écoute de Radion. Au revoir et à mercredi prochain.